Chapitre 7. Les loups sont vainqueurs. Quelques semaines plus tard, Ali Loulibé, assise en face de Mademoiselle Flore, prenait avec distraction, l'ingrat, sa leçon de participe. On entendait un bruit de voix dans le vestibule. « Avez-vous bien saisi ?» disait Mademoiselle Flore, en s'efforçant de fixer l'attention de son élève. « Avez-vous bien saisi que le participe suivi d'un infinitif s'accorde avec l'infinitif ?» Ou plutôt, reste invariable quand l'infinitif... Je m'embrouille, et d'ailleurs, vous n'écoutez pas. Bon, voilà qu'on sonne. Une visite. Et ma sœur, qui est occupée à montrer la maison à ce monsieur étranger. Qu'est-ce que cette rumeur ? Elle prêta l'oreille pendant 2 minutes, hésitant à interrompre sa leçon. Des exclamations s'élevèrent, il y eut un ordre donné, un silence se fit... Puis la porte du salon s'ouvrit à toute volée et les femmes de la maison entrèrent en une longue théorie mélancolique portant solennellement un monsieur évanoui. Flore se dressa, Ali s'élança et le monsieur fut déposé tout étendu sur le large sofa de damas brun. De l'eau de Cologne, du vinaigre, de l'éther, de l'eau fraîche, commandèrent simultanément Mademoiselle Laurentine, Mademoiselle Flore, Paulette et Mademoiselle Alexandrine Jacquet, laquelle avait pris part au cortège. Sur le seuil, Madame Perrault-Campillon, qui semblait fort émue et se tenait au chambranle de la porte, articula faiblement que le traitement moderne des évanouissements se faisait par l'eau chaude. Tout le monde parlait, personne n'agissait, et le monsieur, raide et blanc comme une chemise empesée, ne donnait aucun signe de vie. Paulette se précipita vers la cuisine et revint avec un grand pot d'eau, tandis que l'une des bonnes accourait avec une pile de serviettes. Nous avons eu chacune la moitié d'une idée, et fort heureusement, ces deux moitiés se rencontrent, fit Paulette, trempant un linge dans son pot d'eau et le passant à Mademoiselle Alexandrine, sans trop s'inquiéter des cascades. Ma chère Paulette, fit la vieille demoiselle pour tout remerciement. Votre présence ici est à peine convenable. La fillette battit en retraite vers la porte où Madame Perrault-Campillon, toujours appuyée à la muraille, semblait elle-même sur le point de se pâmer. Qui est ce monsieur ? Demanda Paulette à demi-voix. Est-ce un ami des demoiselles Bain-Rose ? Je venais réclamer l'écharpe de ma tante qu'elle croit avoir oubliée sur le sofa brun. Je causais dans le vestibule avec Mademoiselle Alexandrine. Mademoiselle Laurentine descendait l'escalier en compagnie de ce monsieur. J'imagine qu'elle lui montrait la maison. Je le regardais, il a une bonne tête. Tout à coup, juste au moment où vous entriez, il fait des yeux ronds, il pâlit. Le voilà qui s'effondre. En 7 minutes, un mouvement se fit autour du sofa. Les dames s'écartèrent, le monsieur évanoui se mit sur son séant, écarta de son visage le mouchoir de batiste imbibé d'eau de Cologne, promena ses yeux autour de lui lentement. On attendait avec sympathie le classique « Où suis-je ?». Son regard se fixa sur la porte. Une exclamation s'échappa de ses lèvres. « Malheur ! Ophélie !» Mais ces dames crurent, à l'entendre s'exprimer ainsi, d'une voix basse et grondante qui les interrogeait en une langue étrangère. Vous êtes chez des amis, fit Mademoiselle Flore penchée sur lui. Tout à l'heure, vous vous êtes trouvé mal. La chaleur du vestibule, sans doute, ou la fatigue d'une longue course dans la neige. Peut-être avez-vous faim. Dans un instant, quand vous serez tout à fait remis, on vous apportera un œuf à la coque. Ce mot eut un effet merveilleux et inattendu. L'étranger se dressa tout droit. Il était long et fort maigre, mais son paletot fourré lui prêtait quelque ampleur. Sa barbe était broussailleuse et son sourcil irascible. Et son œil, encore barbouillé des brumes de l'évanouissement, essayait de se faire mauvais sans y réussir. « À moins que cet œuf ne soit un œuf d'autruche, vous en mettrez 4, madame, sans retard. »« Oui, mesdames, oui, je me suis évanouie tout à l'heure. Il y avait de quoi. » Mais à part ça, je n'ai rien de phénoménal, mesdames, et je crois que vous m'avez assez regardé. » À ces mots, bien faits pour décourager la sympathie, le cercle se dispersa, ahuri. Paulette, très amusée, se tourna vers Madame Perrault-Campillon, la vit chancelante. « Vous semblez fort incommodée vous-même. fit-elle avec alarme.
Un peu émue, oui, je suis un peu émue, murmura cette dame qui rajustait sa voilette avec des doigts tremblants. Le chaud, le froid, et puis l'air, le feu,
balbutia-t-elle dans un désordre d'idées dont elle n'était pas coutumière.
L'air, la terre, l'eau et le feu, c'est ainsi qu'on les nomme, corrigea Paulette. Ce sont les quatre éléments, et s'ils vous incommodent tous les quatre, je vous plains.
Paulette, fit madame Perrot-Campillon d'une voix faible, rendez-moi le service de me dire si mon chapeau est de travers. De tous les chapeaux du village de dames, celui de madame Perrot-Campillon était le plus correct dans ses attitudes. Aussi Paulette dirigea-t-elle un regard surpris vers cette élégante édicule de velours surmontée d'une chatoyante aigrette.
« Vos chapeaux sont si bien élevés, madame, qu'ils se tiendraient droit dans un tremblement de terre. »«
Ah !» soupira madame Perrot-Campillon, toujours pâle et défaite.
« Il est des émotions pires qu'un tremblement de terre. »
« Elle n'aime pas à voir les messieurs s'évanouir, » se dit Paulette. « Moi non plus, pour ce qui est de ça. Un homme, c'est comme une cheminée d'usine. Ça a beau s'écrouler, ça n'en est pas plus pittoresque. » Mademoiselle Laurentine venait de tirer sa sœur à l'écart et, sans rien dire, lui présentait une carte de visite sur laquelle était gravé ce nom, Monsieur Jérôme Perrot.
« Juste ciel !» exclama Flore d'une voix contenue.
« Quelle rencontre ! Quel drame ! Je ne me doutais de rien, bien qu'il m'eût remis sa carte dès la première minute en me priant de lui montrer la maison. Cela pouvait être une simple coïncidence de nom, je n'y avais même pas pris garde. Nous descendions l'escalier tout tranquillement, il me racontait qu'il arrive des États-Unis en passant par la Hollande et l'Allemagne et que nulle part il n'a pu obtenir un œuf frais. »
« Voyage-t-il exprès pour découvrir des œufs frais ?» demanda Flore en riant.
« On pourrait le croire. Heureusement, nous avons les deux poules blanches qui pondent encore tous les jours. Il a l'air original, mais nous aurions trouvé en lui un excellent pensionnaire et à demeure. À présent, je crains bien que ses projets ne soient changés. Comme je te le disais, nous descendions l'escalier bien tranquillement quand la porte du vestibule s'ouvre. » Madame Perrot-Campillon paraît grande comme la statue du commandeur. On aurait pu croire qu'il voyait subitement la tête de Méduse. Elle aussi, la pauvre femme, s'est arrêtée sur le coup, hypnotisée.
Un vrai roman, dit Flore enchantée. Cette situation promet des développements inouïs.
Et dire que sans le revers de fortune, jamais peut-être Madame Perrot-Campillon n'aurait été remise en présence de Monsieur Perrot-Campillon. « Moi, je la croyais veuve. Est-ce une simple brouille, une séparation légale, un divorce ? Lequel des deux fut à l'autre, maintenant ? Sommes-nous tenus à garder le secret, Laurentine ?
Comment le garderions-nous ? Le seul nom de notre pensionnaire sera pour toutes ces dames, comme il a été pour nous, la clé de l'énigme. »
« Cela est vrai, dit Flore avec soulagement, car nous ne saurions consentir à héberger un pensionnaire sous un faux nom et de faux prétextes. » Paulette, pleine de sollicitude, accompagna madame Perrot-Campillon jusque chez elle et, dans la plus parfaite inconscience, parla du monsieur évanoui tout le long du chemin. Puis elle repartit comme une flèche vers le cottage de madame Vieux-Girard pour communiquer à Marie-Louise ses émotions encore toutes chaudes. Mais ses préoccupations changèrent de nature quand elle eut sonné à la porte du cottage et que Frumencette, d'un air drôle et gêné, lui chuchota que mademoiselle Marie-Louise avait déjà une visite.
« Qui ça ?» demanda Paulette, contrariée dans ses désirs d'effusion.
« Monsieur Sylvain Fournier. »
« Dans ce cas, j'entre. Il n'est pas pour me faire peur. »
Mais Frumencette la retint par la robe.
« Je me connais en signe, » fit-elle de la même voix basse et solennelle. « Voilà 3 jours de suite qu'il vient à 7 heures. Il demande à voir madame, quand il sait bien que madame n'est jamais visible avant midi. Alors je lui offre de voir mademoiselle à la place, et chaque fois il porte une autre cravate toute neuve. Si ce n'est pas un signe, cela, je veux bien que le cric me croque. Il reste si longtemps que je suis obligée d'aller annoncer que la soupe est servie. » Mais il faut croire que sa conversation n'est pas bien intéressante, car mon bouton de rose est tout triste. » En même temps, Frumencette se permit de cligner de l'œil. Quel pistolet ! Fit Paulette en hochant gravement la tête. Il faut que je lui aide à partir. Et, sans hésiter davantage, elle frappa à la porte du salon, elle entra. Dans l'embrasure de la fenêtre, assise bien droite sur une chaise, Marie-Louise recevait la visite de M. Sylvain d'un air de grande cérémonie, et celui-ci, les yeux baissés, tournait son chapeau entre ses doigts. « Ça y est-il, enfin ? » demanda Paulette en s'approchant. « Peut-on vous féliciter ?» Marie-Louise, toute pâle, leva la tête. « Nous féliciter ? » répéta-t-elle avec des lèvres qui tremblaient. Sylvain s'était levé au même instant. « Je n'ai rien dit encore, » balbutia-t-il. « Pas encore. Dans ce cas, je me retire, » fit Paulette imperturbable. « Mais je reste dans l'antichambre, à votre disposition s'il vous fallait du renfort. Vous n'avez pas l'air bien éloquent, monsieur Sylvain. » Elle se dirigeait vers la porte quand Marie-Louise courut après elle, la rappelant d'une voix suppliante. « Oh, Paulette, ne t'en va pas ! Aide-nous !» Et sur ce mot étrange, elle tomba dans le fauteuil le plus proche, cachant de ses deux mains la riche couleur d'églantine dont ses joues, si blanches tout à l'heure, se revêtaient subitement. « Je ne demande qu'à vous aider, » fit Paulette d'un ton sévère. « Mais comment ?»
Plaidez ma cause, murmura Sylvain, dont la voix semblait sur le point d'expirer.
Plaider sa cause, il n'en a guère besoin. Qu'en dis-tu ? Fit Paulette en se penchant vers son ami et en lui écartant les mains. D'abord, c'est lui qui t'a rendu le goût de vivre l'autre printemps. À moi aussi, du reste, mais il n'est pas question de moi en cette affaire, ajouta-t-elle avec un petit soupir. « Allons, monsieur Sylvain, dites quelque chose maintenant que le sujet est introduit. »«
Mademoiselle Marie-Louise, » commença-t-il avec émotion, « voilà 3 semaines que je cherche une occasion. »«
3 semaines et 2 jours, » fit-elle la tête penchée.
« Et 2 jours, c'est exact. C'était un mardi chez madame Perrault-Campillon, près du paravent violet. J'essayais de vous exprimer et le courage me manqua. »
« Quelle sottise ! » fit Paulette.
« Depuis ce jour, je ne vous ai pas rencontré une fois sans souhaiter de pouvoir vous dire enfin que ma vie et tout mon bonheur... »
« Comme cela devient intéressant, » songea Paulette émue, « et quel dommage que la discrétion m'oblige à me retirer. » Sans faire plus de bruit qu'une souris, elle glissa vers la portière de la salle à manger et disparut. Loyalement, elle appliqua ses mains sur ses oreilles. Elle resta ainsi, accoudée sur la grande table ronde en acajou terni, les yeux fixés sur le portrait de feu Monsieur Vieux Girard qui ornait le dessus de la cheminée. Tout à coup, 2 bras minces l'enlacèrent et des lèvres fraîches se posèrent sur sa joue.
« C'est fini ? » demanda Paulette avec une bizarre impression d'être chez le dentiste.
« Cela commence au contraire !» cria joyeusement Sylvain derrière elle.
Laisse-le te remercier, car sans toi, il n'en serait jamais venu à bout, fit Marie-Louise, radieuse comme l'aurore.
Bah, tu me dois bien aussi un petit bout de cierge, rétorqua Paulette un peu moqueuse. Son amie la tira à l'écart dans l'angle du grand buffet.
Jamais, lui dit-elle à voix basse, je ne pourrais t'exprimer assez ma gratitude. Depuis 3 semaines.
Et 2 jours, compléta Paulette.
Je lisais sur son visage le mot qu'il ne parvenait pas à dire. Nous avions passé 3 demi-heures en tête à tête, 3 jours consécutifs. Et ce matin encore, sans toi, il s'en allait comme il était venu.
Ah, tu n'as pas perdu ta journée, ma petite Paulette.
À ta place, maintenant, dit Paulette de son air de doyenne expérimentée. Je monterai chez ma tante et je lui demanderai sa bénédiction. « Recevez la mienne. Au revoir. »
Elle s'esquiva, plus émue qu'elle n'aimait à le montrer. Bizarrement, son cœur s'attendrissait pour le patient Harrison, fidèle monument d'attente dressé au bord du continent africain. Sylvain Fournier et Marie-Louise n'auraient pu choisir un moment plus favorable pour obtenir l'absolution de leur audace. Le village grignotait des révélations de haut goût, près desquelles de simples fiançailles étaient absolument sans saveur.
M. Jérôme Perrault, que Paulette persistait à appeler le monsieur évanoui, s'était, dès le lendemain de sa syncope, déversé dans l'âme sympathique de Mademoiselle Flore. Il finissait de déjeuner dans la salle à manger et son hôtesse attentive s'enquérait s'il avait trouvé les œufs à son gré. « Je n'en ai jamais rencontré d'aussi frais, ce qui me décide à rester chez vous, » dit le monsieur évanoui de sa voix brusque et autoritaire. « Je voudrais savoir seulement si Madame Perrault-Campillon est dans l'habitude de vous faire visite fréquemment. »«
Presque tous les jours, » répondit héroïquement Mademoiselle Flore. « Nous lui devons beaucoup. C'est elle qui a organisé notre maison. Elle est très bonne ménagère. »
« Je le sais, je connais tous les mérites de Madame Perrault-Campillon. Je ne vous apprends rien, mademoiselle, en vous apprenant que j'ai l'honneur d'être le mari de Madame Perrault-Campillon. »
« En effet, » murmura Flore, qui prit une chaise pour se soutenir, peut-être aussi pour marquer que cette conversation l'intéressait.
« Madame Perrault-Campillon est bonne musicienne, » poursuivit-il.
« Oui, elle joue très bien la dernière pensée de Weber. »
« Ah, » fit-il pensivement, « son répertoire n'a donc pas changé ?»«
Mais elle joue aussi les cloches du monastère. »«
Cela, c'est nouveau. »«
Et le réveil du lion ?»«
Elle le déchiffrait il y a 5 ans. Elle doit le savoir à l'heure qu'il est. »«
Sa maison est la mieux ordonnée du village, » poursuivit Mademoiselle Flore, emportée par une ardeur généreuse.
« Je m'en doute. »
« Elle possède des recettes admirables, elle est pleine d'obligeance et de dévouement. »
« Et dire, » fit M. Jérôme Perrault avec amertume, « que je suis réduit à courir le monde, d'une pension banale à un autre caravansérail, que depuis 5 ans je mène une vie nomade, absolument contraire à mes goûts, que le déclin de l'âge s'approche. » Il pencha la tête sur sa main et resta immobile, les yeux distraitement fixés sur les coques d'œufs brisées dans l'assiette, symbole d'espérance détruite. Mademoiselle Flore ne savait quelle consolation lui offrir.
« Je vous fais juge de ma situation, » poursuivit-il. « Une seule incompatibilité dans le mariage et c'en est fait de l'harmonie. Or, nous avions 2 incompatibilités. » Aussi nettement qu'il avait tout à l'heure, malgré son abattement, prononcé le mot « caravansérail », il prononçait maintenant ce vocable non moins difficile « incompatibilité » et Flore s'attendait à voir quelque autre polysyllabe comme prestidigitateur ou anticonstitutionnel s'envoler complet de ses lèvres. Il n'en fut rien néanmoins. M. Jérôme Perrault continua en mots de 3 syllabes au plus. « Je déteste l'allemand et j'aime les meringues. Madame Perrault-Campillon déteste les meringues et adore l'allemand. Elle assurait que les meringues sont fatales à mon tempérament plutôt bilieux. Elle n'en commandait jamais et ne tenait compte de mes réclamations. D'autre part, comme j'avais des loisirs, m'étant retiré du commerce, elle me persuada d'étudier l'allemand que j'ignorais. » Chaque matin, elle me contraignait, non par la force, je m'empresse de le dire, mais par l'ennui d'une longue exhortation, elle me contraignait à traduire ces thèmes d'Ollendorf où l'on prie le fils du boulanger de demander au cousin de la femme du jardinier s'il met ses souliers avant de mettre ses bas ou ses bas avant de mettre ses souliers. Pendant des mois, je me soumis, mais quand Madame Perrault-Campillon en vint à me prendre par la famine et ne m'accorda plus mon déjeuner qu'au prix d'un thème, je mis ordre à mes affaires et je m'exilai. Oui, mademoiselle, je m'exilai tristement. Je fis une rente convenable à Madame Perrault-Campillon, puis toutes les communications furent rompues. Elle ignora mon adresse, j'ignorais la sienne. Je satisfis, bien au-delà de mes désirs, un goût de voyage qui datait de ma jeunesse. Là, enfin, d'erré seul, j'arrivais ici sans défiance, me proposant de passer un hiver paisible dans la pension confortable, quoique rustique, que des amis m'avaient recommandée. Je visitais la maison. Tout à coup, la porte s'ouvre et ma femme, Madame Perrault-Campillon, apparaît. Le sol se dérobe sous mes pieds. Vous savez le reste, vous savez tout. Mademoiselle Flore, palpitante d'intérêt, contemplait le narrateur. Il avait une bonne figure, malgré sa grosse barbe et ses sourcils de Jupiter courroucés.
« Serait-il impossible, » dit-elle avec hésitation, « serait-il impossible de vous raccommoder ?»« mais il secoua la tête et roula les yeux en même temps. « De soumis que j'étais, gronda-t-il, je suis devenu un autocrate absolu. Vous vous en apercevrez, mademoiselle. Je commande, j'exige, je fais trembler les vitres. Je mènerai mon épouse à la tartare. Oui, mademoiselle, à la tartare. »
« Je n'en crois rien, dit Flore. D'ailleurs, Madame Perrot-Campillon a sans doute changé, elle aussi, pendant cette longue séparation. « Je crois qu'elle vous regrette, s'écria-t-elle, subitement illuminée. On la voit souvent lever les yeux avec sentiment vers un tableau intitulé « Deuil d'amour » et qui a la place d'honneur dans son salon. Une femme est pleurée, penchée sur un tombeau.
« Pauvre Ophélie, elle m'a cru mort, murmura M. Jérôme Perrot, attendri.
Tout le jour, les visites affluèrent au cottage Bain Rose. On venait prendre des nouvelles du monsieur évanoui, et quand ses hôtesses le présentaient comme monsieur Jérôme Perrot, on répétait ce nom avec une petite nuance interrogative.
« Tiens, fit mademoiselle Alise, qui était accourue la première, seriez-vous un parent de madame Perrot-Campillon, notre voisine ?»«
Parent par alliance, répondit-il, s'inclinant avec gravité.
« Saviez-vous qu'elle habitait notre village ?»«
Je l'ignorais absolument. »«
Quel surprenant hasard! Vous vous connaissiez autrefois ?»«
Beaucoup. »«
C'est charmant. Madame Perrot-Campillon doit être ravie de cette rencontre. »«
Pas plus que moi, dit-il. » Cette phrase prêtait à l'équivoque. Mademoiselle Alise lui donna une interprétation polie.
« On vous réunira, » fit-elle, prophétisant sans le savoir. « Nous voisinons beaucoup, monsieur Perrot, et les occasions de voir les gens qu'on aime sont fréquentes. Venez demain prendre le thé avec moi. C'est mon jour. »
Madame Vieux-Girard, se trouvant fort enrhumée, avait prié Sylvain et Marie-Louise de sursoir d'une huitaine à l'annonce de leur fiançailles. Elle les avait embrassés tous deux fort affectueusement, puis elle avait appelé Frumencette. «
Ma bonne, lui avait-elle dit, faites le nécessaire pour ces deux enfants. Je vous donne carte blanche. Pour moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on m'épargne les émotions. »
Très embarrassés dans le rôle de fiancés incognito, Sylvain et Marie-Louise se rencontrèrent donc chez mademoiselle Alise et pendant une heure firent des efforts inouïs pour avoir l'air naturel. Paulette, charitablement, détournait d'eux l'attention, créait des incidents, couvrait leur bévue du manteau de son bavardage. La scène était fort animée. Ouverte à deux battants, la salle à manger agrandissait le salon de ses trois fenêtres, de ses claires-boiseries, de son lointain dressoir et de sa table à thé chargée d'argenterie, où le soleil d'hiver piquait des étincelles. Les petites nappes de lin soyeux semblaient des taches de neige, ci et là, sur les guéridons, et les précieuses petites tasses de Chine s'épanouissaient comme des fleurs entre les mains des convives. Un gai tintement de cuillers accompagnait le bruit léger des voix, le froufrou de robe et la chanson gloussante du samovar. Derrière les fenêtres, tout le grand pays était blanc, avec des ombres mauves. Il n'est guère de plaisir plus exquis, plus immatériel, que celui de boire du thé dans une jolie tasse, en gaie compagnie, devant un horizon de neige. Des arômes subtils caressent l'imagination, éthérisent l'esprit qui se dégage de la substance épaisse et s'élance en fusée, en jet délicatement mousseux. Le thé, la neige, la gaieté, une triade que des gens de montagne connaissent bien, et parmi nous autres du Jura. Mademoiselle Alise, en robe de soie feuille morte, sa seconde belle, se promenait les mains derrière le dos, avec des mots de bon accueil et d'hospitalité. Jusqu'à Mademoiselle Bellange, qui, soutenue par sa canne et par Lise, s'était aventurée sur le beau chemin de neige durcie, et qui, maintenant, toute menue dans un coin du sofa, enveloppée de ses châles de soie et de ses fourrures blanches, ressemblait à une perle pâle dans un écrin. Les demoiselles Bain-Rose venaient d'arriver avec leurs deux pensionnaires et une immense corbeille de fleurs du midi, offrande galante de M. Ali Loulibé, qui se mit à les distribuer. « Où est donc mademoiselle Kegelbaum ? » faisait-il avec impatience. « Je lui garde ses œillets. Elle aime les œillets. »«
Non, mademoiselle Paulette, ces œillets ne sont pas pour vous. »«
Allons, allons, ne faites pas la taquine. Contentez-vous de cette belle rose. » « Je vous dis que ces œillets sont pour mademoiselle Kegelbaum.
J'ai apporté aussi ma petite règle d'or toute neuve, très exactement divisée en millimètres. Mademoiselle Kegelbaum pourra commencer aujourd'hui ses mesurages. » Et de sa poche, il tirait à demi un calepin, un crayon à la pointe effilée. Quand la bonne Adélaïde parut sur le seuil, M. Ali se précipita à sa rencontre, lui fit une ovation si tumultueuse qu'elle en demeura interdite. « Pas tant de bruit, je vous en supplie » souffla-t-elle les yeux baissés. « Je suis une personne de trop mince importance. » « Pour moi, déclara-t-il avec ardeur, il n'est pas au monde de personne qui importe davantage. Je ne m'en cache pas, quand vous voulez bien sourire, vous m'enflammez le cœur. »« Qu'est-ce que vous dites là, monsieur Loulibé ? » fit mademoiselle Alice, s'avançant vers Adélaïde pour l'accueillir. « N'y faites pas attention !» implora l'aimable fille, fort troublée. « Monsieur Ali est si enthousiaste, si idéaliste !» Elle prononçait ces mots à l'allemande avec la forte accentuation qui en fait un chibolette de la race. « Ça, c'est vrai !» répartit Ali, plein de feu. « Je suis idéaliste et mon idéal, c'est vous !»« Hum !» fit mademoiselle Alice. Mais elle dut les abandonner pour répondre à la salutation un peu émue de Madame Perrot-Campillon, qui entrait incertaine, ne sachant tout regarder, très magnifique en sa robe de velours noir, qu'un beau camérose agrafait au col. « Charmée de vous voir, comment allez-vous ? Un peu pâle, les yeux cernés !» fit mademoiselle Alice, dont le coup d'œil rapide était celui d'un médecin. « On pourrait croire que vous n'avez pas dormi la nuit dernière. Une insomnie nerveuse ? J'en suis peinée. J'ai des gouttes souveraines pour cela. Asseyez-vous, je vous ai préparé une rencontre avec votre cousin d'Amérique. C'est bien votre cousin, n'est-ce pas ? Ajouta-t-elle, prête à s'envoler vers l'autre extrémité du salon, où M. Jérôme Perrot l'attendait, debout et solennel. « Pas précisément !» balbutia la pauvre femme dans un émoi révélateur. Mais mademoiselle Alice, pareille à une colombe messagère, avait déjà pris son essor. Madame Perrot-Campillon ferma les yeux, saisit de ses belles mains blanches et tremblantes le bras de son fauteuil et attendit le coup. Une brume de son l'entourait, la voix de mademoiselle Alice parvint vague et flûtée à ses oreilles. « Ma chère voisine, votre cousin, très désireux de renouveler connaissance !» Elle le vit dans un brouillard gris, s'incliner cérémonieusement, et puis tirer un fauteuil et s'asseoir à côté d'elle. Et là-bas, au fond du salon, les sœurs Bainrose, pénétrées d'horreur à la pensée de leur complicité, chuchotaient entre elles. « Ophélie, madame !» fit à demi-voix M. Jérôme Perrot, « nous voici dans une situation embarrassante. » Elle eut un petit mouvement d'épaule qui signifiait « À qui le dites-vous » Alors ils se regardèrent longuement, silencieusement. « Vous avez maigri, » dit-elle. « Vous trouvez ? C'est bien possible. J'ai vieilli aussi. »«
Pas beaucoup, moins que moi. »
« Vous, non, vous êtes la même. »«
J'ai des cheveux blancs, » fit-elle en baissant la tête.
Et il vit dans ses beaux bandeaux ondulés, d'un jet brillant, quelques fils de soie pâle.
« C'est le chagrin, » murmura-t-elle.
M. Jérôme Perrot toussa, essaya de parler.
« 5 ans, sans un mot de nouvelles, » poursuivit Madame Perrot-Campillon d'une voix étouffée. « Ah, si vous aviez connu mon cœur, vous ne l'eussiez pas fait souffrir ainsi !»«
Ophélie ! » s'écria-t-il, suffoqué d'étonnement.
« Votre départ était cruel. Il me mettait à l'index de notre société. Je me réfugiais dans ce hameau où personne ne me connaissait. J'y mène depuis 5 ans une vie retirée, toute consacrée aux devoirs et à votre souvenir.
Ophélie !
Mes torts qui étaient nombreux !
N'en parlons plus, Ophélie !
Je les ai reconnus, puis expiés par le long ennui de ces 5 années, par la torture de mes inquiétudes à votre sujet.
Ophélie, mon pauvre ange, si j'avais pu me douter!
Je vous croyais sur l'océan, ballotté par les tempêtes.
Ma pauvre amie,
je me tourmentais pour vos chaussettes.
Monsieur Jérôme Perrot, se penchant vers sa femme, lui saisit les mains. « J'ai été un monstre sans cœur, » répéta-t-il d'un ton pénétré.
Non, non, ne dites pas cela, Jérôme. C'est moi, au contraire. Je vous ai tyrannisé. »
Et, n'y tenant plus, Madame Perrot-Campillon se mit à sangloter à la vue de tout le monde. Car, depuis quelques minutes, leur entourage les observait avec étonnement. M. Jérôme Perrot ne put endurer ses larmes. Son âme tendre de brave homme se fendit à se repentir.
« Ophélie, ne pleure pas, je t'en conjure. Pardonne-moi » murmura-t-il.
Et comme elle lui retirait ses mains pour s'en couvrir le visage, il tomba à genoux devant elle. Un silence extraordinaire se fit autour d'eux. Même Mademoiselle Alice semblait figée sur place. Alors M. Jérôme Perrot se releva, puis, avec un grand salut, offrit son bras à Madame Perrot-Campillon. Ensemble, ils firent trois pas vers leur hôtesse. « Ma femme, » prononça le cousin d'Amérique, après s'être éclairci la voix. « Ma femme, que je retrouve après une longue séparation, fruit d'un malentendu. »«
Je m'empresse de dire, » prononça Madame Perrot-Campillon d'une voix faible, « je m'empresse de dire que tous les torts étaient de mon côté. »
Cette parole d'humilité produisit dans tous les cœurs un dégel soudain, et alors les sympathies s'épanchèrent. Mademoiselle Kegelbaum, fille d'une race sur les lèvres de laquelle voltigeaient les questions, osa demander si M. Jérôme Perrot, avec un dessein bien arrêté, n'était point venu dans le village comme un loup sous une peau de mouton. Sa dénégation énergique ouvrit la voie aux explications. Une grande lumière se fit sur le drame de l'évanouissement et l'étonnement ne connut pas de borne quand on découvrit que les sœurs Bain-Rose gardaient ce grand secret depuis 2 jours.
« Quant à moi, je ne sais si j'eusse été capable d'une telle discrétion, » fit Mademoiselle Alice, agitant avec énergie ses grappes de boucles grises. « Depuis si longtemps, nous vivons dans ce village comme une seule famille, ne nous cachant rien les unes aux autres. »
Elle s'interrompit. L'épisode de Monsieur le voleur lui revenait en mémoire. Plus d'une fois déjà, elle avait formé le projet de se décharger la conscience de ce petit fardeau, mais l'occasion ne s'en était point offerte. Alors, moitié pour remplir son devoir d'hôtesse, qui était d'entretenir ses invités, moitié pour détourner de Madame Perrot-Campillon une curiosité trop gênante, elle y alla, elle aussi, de sa petite confession. Elle dépeignit avec gaieté sa découverte nocturne d'un homme parmi le Réséda. Toutes ces dames frémirent, et Clermonde, au fond de la salle à manger, debout derrière le samovar, hochait la tête pour marquer que mademoiselle n'exagérait pas d'un pommeau d'épingle. Avec un soulagement indicible, mademoiselle Alexandrine suivait toutes les phases du récit. Il lui était toujours resté sur le cœur une petite épine de rancune au sujet de la demande en mariage que, ainsi le croyait-elle, son amie avait reçue à cette époque et ne lui avait point communiquée. « Ma chère, » dit-elle avec magnanimité, quand mademoiselle Alice eut fini son récit, « j'ai à vous faire amende honorable. J'attribuais vos allures mystérieuses à une cause moins digne de vous. Quelle satisfaction, » ajouta-t-elle, promenant ses regards autour d'elle, « quelle satisfaction sans mélange procure l'éclaircissement d'un mystère. »« Quelle satisfaction, » ajouta-t-elle, promenant ses regards autour d'elle, « quelle satisfaction sans mélange procure l'éclaircissement d'un mystère. » Et par un pur hasard, son œil noir s'arrêta dans le coin de la cheminée sur Marie-Louise qui, rougissante, ne parvenait point à cacher son émoi. Sylvain était debout à côté d'elle et se penchait comme pour interroger son visage. Tout à coup, il se redressa. « Mesdames, s'écria-t-il, il y a dans ce salon une pression de 100 atmosphères qui fait éclater tous les secrets. Le nôtre vole en 1000 morceaux et la vérité se fait jour. Je suis un autre loup, mesdames. J'ai ravi votre plus douce brebis. » Alors, saisissant la main de Marie-Louise, il fit à son tour la promenade qu'un couple heureux venait de faire à travers le salon jusqu'à Mademoiselle Alice, bouleversée.
« Oh, les petits pandards !» murmura-t-elle dans son agitation.
Mais elle avait à peine repris haleine quand Ali Loulibé s'élança de son siège. Le visage animé, les yeux plus brillants qu'on ne les lui avait jamais vus, il cingla droit vers Mademoiselle Kegelbaum.
« Faites de moi aussi un homme heureux » prononça-t-il à haute voix, avec tant de sentiments que les yeux bleus de la bonne Adélaïde se remplirent de larmes instantanément.
Un murmure de stupéfaction courut dans toute l'assemblée.
Oh, c'en est trop, fit mademoiselle Alexandrine qui se leva.
Pourquoi trop? Cria Ali, s'en prenant à elle avec tant de verdeur qu'elle tomba assise décontenancée. Qu'est-ce que je demande de plus que mon ami Sylvain n'a demandé et obtenu?
Calmez-vous, dit mademoiselle Alise, il n'est pas d'usage, mon cher monsieur, de présenter ces demandes-là en public.
Que tout le monde sorte alors, rétorqua-t-il. Je lui ferai ma demande en particulier, et quand elle aura dit oui, vous pourrez rentrer.
Monsieur Loulibé, fit Adélaïde suppliante.
Attendez un peu que vous entendiez les objections de ces dames et la façon dont j'y répondrai. Mademoiselle Alexandrine, seriez-vous assez bonne pour exposer vos objections ?
Elle haussa les épaules.
C'est insensé, dit-elle à demi-voix en regardant mademoiselle Alise. Je vous prie, ma bonne, de mettre un terme à cette scène inouïe.
Venez ici, monsieur Ali, fit la compatissante mademoiselle Bellange de son coin de sofa. Il se tenait tout droit, dans une attitude belliqueuse, ses cheveux blonds rejetés en arrière et transformés subitement d'un enfant bizarre et puéril en un homme capable de vouloir. Chacun fut frappé de cette métamorphose.
« Venez ici, répéta mademoiselle Bellange, accordez-moi cette faveur. »
Aussitôt, il se dirigea vers la gracieuse invalide qui lui prit la main.
« Je suis votre alliée, fit-elle.
« Quoi ? Comment ? S'écria mademoiselle Alise, levant les deux bras de stupéfaction.
« Oui, je suis son alliée. Pourquoi pas ? Je trouve son idée excellente. Mademoiselle Kegelbaum lui convient parfaitement. Ils seront très heureux. »
Mais une autre surprise se préparait pour ces dames. Adélaïde, la modeste, l'effacée, bouillonnante de griefs et de revendications, sentait que son jour était venu et qu'en elle aussi, une pression de 100 atmosphères allait tout faire sauter. Sans se lever, elle se pencha en avant, les paumes de ses deux mains nerveusement pressées l'une contre l'autre, et sa voix vibra.
« Je n'ai besoin ni d'alliés, ni de conseils, ni de permission. Assez longtemps, on m'a traitée en mineure et en dépendante. Assez longtemps, on m'a poussée à droite, à gauche, comme un meuble tantôt utile et tantôt encombrant. » Assez longtemps, j'ai reçu des avis sur mes robes, mes chapeaux, mon accent et sur mon avenir en ce monde et dans l'autre. J'en ai assez, je me redresse. Je vous défends de vous occuper de mes affaires. Je vous défends de dire à M. Loulibé s'il a tort ou raison. Cela ne concerne que moi et je saurai bien lui répondre.
Quelle petite furie, murmura Mme Perrault-Campillon dans l'oreille de son mari. Nous avons toutes été parfaitement bonnes pour elle. Mais elle vit aussitôt qu'un nouveau régime avait commencé, car M. Jérôme Perrault répondit sans embâge « Ayant souffert, je sais compatir. » Toute frémissante, Adélaïde Kegelbaum se levait, le cœur gonflé de sanglots. On allait la détester maintenant, mais elle ne regrettait rien. Au contraire, elle se respectait davantage d'avoir osé enfin montrer un juste orgueil. Les yeux baissés, elle fit deux pas vers la porte, mais elle n'alla pas bien loin, car Ali se précipitait vers elle, et d'un autre côté, la main de Laurentine Bainrose se posait sur son épaule.
« Ne nous quittez pas ainsi, laissez-nous le temps d'exprimer des regrets.
« Prenez mon bras, je vous reconduirai, » faisait Ali d'une voix émue. Mademoiselle Alise accourait, toujours généreuse et prompte à s'enflammer.
« Ma pauvre bonne Adélaïde, pardonnez-nous. « Oui, je le reconnais, j'ai souvent manqué de tact et de discrétion à votre égard. »« Non, non, ce n'est pas vous !» répondit mademoiselle Kegelbaum, étouffant ses sanglots dans son mouchoir.
Et à chaque personne qui venait lui exprimer des regrets, elle faisait la même réponse.
« Ce n'est pas vous ! Ce n'est pas vous !»
Ce n'était personne pour finir. « Je vous le jure bien, » dit mademoiselle Alise en la faisant asseoir sur le sofa près de mademoiselle Bellange, « je vous le jure bien que personne ne vous donnera plus de conseils. Laissez-moi cependant formuler une requête. C'est que vous considériez soigneusement la demande que M. Loulibé vient de vous adresser et que vous ne la rejetiez point avec trop de précipitation dans un sentiment que le village attend cela de vous. » Ali, qui n'était point très éloigné, se rapprocha.
« Vous vous tromperiez, » poursuivit mademoiselle Alise avec chaleur. « Nous ne souhaitons que votre bonheur à tous deux. »« Voir mon ami se transformer en agent matrimonial, songea mademoiselle Alexandrine avec amertume. Mais elle ne dit rien, car elle voyait bien qu'aux yeux de toutes ces dames, le mariage de mademoiselle Kegelbaum avec M. Loulibet était écrit dans le ciel. « Je suis trop âgée pour lui !» murmura Adélaïde, qui semblait sur le point de défaillir. « Mais vous semblez beaucoup plus jeune que votre âge, » répondit la consolante mademoiselle Alice. « Je suis pauvre !»« Cela se trouve bien, car j'ai plus d'argent que je ne sais qu'en faire, » dit Ali, lui saisissant les deux mains. Une petite rumeur d'approbation courut parmi ces dames. On lui trouva de l'à-propos, et de l'esprit, et du cœur. Nous demanderons à mademoiselle Alice la permission de nous bâtir une petite maison tout au bout du village et nous travaillerons ensemble à notre statistique. J'ai la petite mesure d'or et le carnet dans ma poche. Dites oui, chère mademoiselle Kegelbaum, dites oui. Sans vous, ma vie est manquée. Mais elle résista à ses instances et, par dignité féminine, demanda 8 jours de réflexion. « Moi, dit Paulette, je vais me rembarquer pour l'Afrique. On en est à ce point dans votre village de dames qu'on s'y fait remarquer en restant célibataire. » Tout le monde rit de cette boutade et mademoiselle Bellange pinça la joue de Paulette en chuchotant « À qui le tour ?» La petite société se dispersait gaiement. On taquinait Marie-Louise, qui grondait son fiancé et suppliait qu'on n'allât point avant une huitaine offrir des félicitations à sa grand-tante enrhumée. Madame Perrault-Campillon, suspendue au bras de son époux retrouvé, l'emmenait triomphalement vers son cottage dont elle désirait lui faire les honneurs. Les ruelles de neige, sous le grand ciel déjà obscurci, où scintillaient les premières étoiles, les ruelles et les chemins blancs étaient pleins de voix joyeuses, de gens contents. On s'attardait à causer sous les porches et, quand une porte s'ouvrait, la gaie lumière orange de l'intérieur se répandait sur les marches, découpait des silhouettes, révélait un geste d'adieu. Et ce soir, comme hier, comme demain, on était heureux dans le village de dames parce qu'après tout, on s'aimait. Et qu'avec des petitesses et des maladresses, on se portait néanmoins intérêt les uns aux autres par vraie sympathie secourable, parce qu'on avait de la jeunesse pour égayer la vieillesse et de l'expérience pour tenir les rênes aux poulains échappés, parce qu'enfin, sur les vies finissantes, se greffaient des recommencements. Les deux amies de fondation, mademoiselle Alice et mademoiselle Alexandrine, étaient restées en tête à tête et, dans l'embrasure de la fenêtre, suivaient des yeux les groupes qui s'éloignaient. « Fini !» soupira mademoiselle Alexandrine. Qu'est-ce qui est fini, ma bonne amie? Notre village de dames, l'invasion ne s'arrêtera pas là. Pendant des années, nous avons vécu heureuses. Oui, nous étions heureuses, fit mademoiselle Alice d'un ton rêveur. Puis elle ajouta malicieusement, nous ne savions pas ce qui nous manquait.